France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle James Conlon. Je suis né à New York en 1950 et je suis chef d'orchestre.
James Conlon, vous nous avez raconté comment à 11 ans, Violetta d'une certaine façon est votre Eureka. Vous voyez la Traviata et puis toute la vie change. Il y a un autre moment très important dans votre vie qui est quand vous êtes à la Juilliard School, Maria Callas qui donne ses masterclass et là, telle une pitié, Maria Callas va vous désigner pour remplacer au pied levé, quasiment, le chef d'orchestre qui devait diriger la Bohème, et vous avez juste 21 ans. Ce moment-là, il cristallise plein de choses, j'imagine. C'est la Bohème, c'est en plus l'opéra, voilà, quelque chose qui est sans doute votre premier amour pour la musique. Comment est-ce que vous vous en souvenez aujourd'hui, en 2019? C'est encore frais, tout ça?
Vous dites bien que c'était un moment clé. Parce que ça a déclenché ma vie professionnelle par un hasard. Et le hasard avait beaucoup de facteurs. D'abord, le chef qui a annulé, c'était un grand chef, c'était Thomas Schippers. Et c'est une grande chose pour un garçon. J'étais un garçon, littéralement un garçon. La présence de Maria Callas, c'était un hasard incroyable. Parce que si c'était différent, ça n'aurait pas été... comme ça. Quand Maestro Schippers a commencé d'annuler les répétitions parce qu'il n'était pas bien, il avait une petite crise parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Et donc, dans quelques jours de ce problème, ils sont venus vers moi et disaient est-ce que tu peux à moi aider un peu parce que je pense que tu le connais. Ils disent oui, je connais un peu. Je dis,
vous lancez donc dans cette répétition, c'est ça?
J'ai lancé un tout petit peu. Et l'assistant du président de Juilliard a dit, vous savez, nous cherchons un chef, on va avoir un grand chef, mais on ne va pas trouver un grand chef. On risque même pas de trouver un bon chef à ce point-là, parce qu'il y avait, je ne sais pas, 10 jours, quelque chose comme ça. Mais il y a un garçon ici qui a déjà dirigé un opéra à Spoleto, et j'ai vu, il était excellent, et pourquoi pas essayer. À un moment donné, le président, qui n'était pas sur ce qu'il devait faire, il a appelé Madame Callas et il a dit, nous avons ce problème. Et un garçon, il paraît qu'il est bien, il peut diriger l'opéra, mais moi je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aller regarder la répétition et vous me dites si vous pensez qu'il est suffisamment préparé pour le faire. Elle a dit oui. Je me rappelle, elle a entré dans la salle de répétition, elle n'a rien dit. Elle avait ses fourrures, c'était février. Elle avait même dans l'intérieur de l'orchestre les lunes noires. Mais je pouvais sentir ses yeux, malgré ça, comme un laser. Elle est partie, sans un mot. Et juste après la répétition, l'assistant du président vient et dit, Madame Callas est allée au président. Il a dit, voilà, prends-lui, il va avoir un grand futur. C'était sa bénédiction.
Thank you.
parle beaucoup des masterclass, beaucoup de choses, c'est théâtralisé, hystérisme, etc. Je la vois très différemment, de mon optique. C'est ce que j'ai vu de Madame Callas, c'était très différent. Grand professionnel. Ah, mais super. Avec concept, la vieille école de chant, le solfège, la dramaticité. Elle était spontanée, mais c'était pas un spontané de quelconque. Que, ah, aujourd'hui, je sens comme ça. Elle a pensé chaque phrase et pourquoi et comment. Zéro de cette portrait d'hystérique qui est devenu beaucoup la légende, en partie de la légende. En tout cas, quand Mimi et Rodolphe sont seuls, il y a un moment où le grand motif d'amour se déclenche dans l'orchestre. Avant qu'elle commence, elle chante son andati, fingevo di dormire. Elle a dit, maître, ici cette phrase, vous devez donner un cadeau au public. Vous allez dire pour la dernière fois que vous aimez quelqu'un. Et c'est chaque personne dans le public ne sent pas ça, vous n'avez pas fait votre devoir. Et je me rappelle les yeux de Madame Callas. Et j'ai compris.
Vous avez des sacrées rencontres, James Conlon est très tôt et très jeune, il y a Maria Callas, et puis en fait, vous avez évoqué le festival de Spoleto, je crois qu'il y a Menotti qui a un rôle important quand vous êtes parti à Spoleto, et puis après, assez vite finalement, il va y avoir Pierre Boulez. Pierre Boulez, il va arriver à New York, à la direction de New York Philharmonic, et lui aussi va faire appel à vous, vous n'avez même pas 25 ans.
Le fait, c'est ce que... Il y a un grand avantage et un désavantage d'être déjà actif professionnellement jeune. À l'époque, ce n'était pas un cadeau à un chef d'être jeune. Mais le grand, grand avantage que j'ai pu connaître et travailler avec la fin de cette génération. Et j'ai appris tellement, et je savais que je pouvais apprendre et j'ai voulu apprendre. J'ai travaillé et j'ai devenu comme un fils à Boris Christophe. Pour moi, un dieu menaçant qui m'a fait peur. Et j'ai découvert un homme sensible et merveilleux. Lui, sa femme, la sœur de sa femme, Mathilde Gobbi, la femme de Tito Gobbi. Tito Gobbi, avec qui nous avons fait Tosca, il a fait la régie. Nous avons établi un lien qui est resté toute la vie. J'ai appris tellement de ces Italo Taio. Mon professeur, je dis professeur, c'était privé, un pianiste et coach, assistant de Toscanini et de Guarneri, italien, né en 1900, Dick Marzolo. Et il était un être extraordinaire qui immigrait sans travail, donnait des leçons dans son appartement au centre de New York. Au chanteur. Il est un pianiste extraordinaire et il a passé des années comme assistant. Guarnieri d'abord, Toscanini après. Il était aussi un homme qui a travaillé avec Mascagni, Zandona. Il était suffisamment excellent, jeune, dans les années 20, de travailler avec des compositeurs de l'époque. Donc, il était très rigide. Mais la rigidité est devenue pour moi un grand avantage. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé tout ce qu'il a appris entre disons, le début du siècle et 1025-30. Et il a gardé l'esprit. Il a gardé l'esprit. Il a ouvert mes yeux, les oreilles, aux choses que j'ai jamais entendues dire par quelqu'un d'autre. Surtout sur la vocalité et surtout sur l'usage d'italien, parce qu'il était italien. Comment tu construis et comment tu peux pas seulement faire apprendre un chanteur, mais comment vous pouvez réaliser la musique comme vous croyez que ça devrait être à travers la voix, le texte. Et j'ai passé 17 ans, encore une fois, comme famille.
Musique, les grands entretiens de James Conlon.
Dans le genre James Conlon, grande personnalité aussi que vous avez connue d'une façon assez privilégiée parce que cet homme-là en train de travailler, c'est 1973, Salzbourg, Karajan, et pas sur n'importe quelle partition.
Non, ça c'était une autre grande expérience. 3 semaines en regardant les répétitions de Karajan à Salzbourg, Tristan et Rheingold. C'était une formation wagnérienne incroyable. Chaque jour, chaque matin, 3 heures dans le Festspielhaus, de voir comment il a travaillé, comment il a maîtrisé tout. En même temps, il a fait la régie, il a fait tout. J'ai vu ce cerveau incroyable et quelle simplicité des moyens. Parce qu'il n'a presque pas bougé. Il pouvait faire tout.
Une économie de gestes.
Oui, une leçon. Mais plus que ça, et ça c'est un pouvoir. C'est le pouvoir d'un vrai charisme. De quelqu'un qui, avec la concentration de ses pensées, pouvait unifier tout le monde. Et la magie, c'était, tu n'as pas vu comment il a fait. Je ne peux pas dire, well, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est arrivé. Très peu de mots. Il a parlé très peu. Puis des gestes très simples. Mais bien entendu, il savait exactement qu'est-ce qu'il a fait. J'ai jamais oublié cette expérience.
Votre amour de Wagner, il est né là ou il était
non,
déjà
non,
là
non,
avant?
Adolescent.
Parce que ça, je crois qu'il y a quand même quelques territoires chez vous, James Conlon. On peut parler de Verdi, d'une planète qui s'appellerait Péléas, d'une planète russe avec la Kovanchina, avec Boris Godounov, d'une planète wagnérienne aussi.
Planète Wagner a commencé 15 ans. Et Wagner, comme vous avez, je ne sais pas si vous êtes wagnérienne ou pas wagnérienne, mais ça vous prend, c'est comme une drogue. Vous oubliez tout le reste. Il a cette capacité, même quand j'entends Beethoven, je sais qu'il y a Mozart, j'entends Brahms, je sais qu'il y a Beethoven. Si vous entrez dans une certaine espèce d'esprit, en Wagner, le monde n'existe plus, autre musique n'existe plus. Et ça, c'est arrivé avec moi. Suffisamment jeune, 15, 16 ans, je ne me rappelle plus exactement quand, que j'étais déjà mordu. Et on ne perd ça jamais. On ne perd ça jamais. Bien entendu, il fallait beaucoup des années avant d'avoir l'occasion de diriger Wagner. Et c'était une des raisons principales pourquoi j'ai accepté le poste à Cologne. Parce que j'étais très frustré. Parce que j'ai compris que les music directors, ils ne donnent pas les opéras de Wagner aux autres. Ils gardent pour eux. Et alors, quand j'ai reçu l'invitation de Michel Hampe, qui était l'intendant de l'opéra de Cologne, j'ai dit, Dr. Hampe, si je viens, il y a une chose que je voudrais dire. Je voudrais faire tous les opéras de Wagner. Si je ne peux pas faire ça, je ne voudrais pas venir. Il a dit, mais James, nous sommes un théâtre germanique. C'est ça qu'on fait. Et ça, c'était la première raison pour laquelle j'ai pris la position. Et ça a joué un rôle aussi à Los Angeles. Parce que je savais qu'il devait faire la technologie pour la première fois produite à Los Angeles. Et Placido a dit, tu sais qu'on va faire la technologie.
Il a su vous prendre par les sentiments.
Ouais, il a su, bien sûr. Il a su. Et ça, c'est une raison juste là pour accepter la poste.
Je me demandais justement, pour vous, James Conlon, une partition, qu'est-ce que c'est en premier? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que ce sont des notes? Est-ce que ce sont des phrases, une histoire?
Ouais, la partition n'est pas la musique. La question plus importante, c'est qu'est-ce que c'est la musique? Si tu peux même définir ou mettre en mots qui est déjà difficile, voire impossible. La partition en est un papier. Il y a des notes. Je pense que c'est, je ne sais pas qui l'a dit, c'est la carte. Oui, mais la carte n'est pas le pays. La carte, c'est une réduction intellectuelle pour comprendre certaines choses sur la structure. Donc, une partition, vous avez toutes les notes, vous avez des notations, vous avez des indications de tempi, des nuances, quelquefois d'expression. Et on commence avec ça. Il faut être fidèle à ça. Ça, c'est très important. Mais en même temps, la musique prend de vie live, c'est-à-dire c'est les sons. Et donc, c'est constamment un dialogue entre une chose abstraite et une chose très vraie et réelle. Et la partition commence comme ça.
Parce qu'une œuvre impose son approche.
Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce qu'il y a une œuvre. L'œuvre n'est pas là pour nous. Et ça, c'est important. Mon attitude vers l'étude, c'est un peu religieux quand même, même si je ne suis pas pratiquant. C'est d'ouvrir l'esprit à un esprit qui est plus grand, plus transcendant, plus supérieur. La musique ne peut pas dire qu'est-ce que c'est, ce point de vue, mais tu le sens. Si tu essaies de devenir vide, vide de ego et de rien, tu peux absorber comme une éponge et tu apprends. Si vous avez humblement fait la première pas, c'est-à-dire d'absorber ce qui n'est pas toi, mais qui est plus grand que toi, tu auras la possibilité de communiquer. Et pour moi, la première règle est un peu comme le serment Hippocrate. Do no harm. Ne fais pas mal d'abord à la musique. Get out of the way. Laisse que la musique parle. Laisse que la musique sonne. D'abord, c'est une bonne chose. Vous ne faites pas interférence. Vous ne faites pas un obstacle de vous-même, de la musique. Et après ça, vous, comme un médecin, vous essayez de promouvoir le salut.
The sunlight in glory puts darkness to flight. Condemning its shadow to infinite night.
C'est sur cet extrait fort exotique de la flûte enchantée de Mozart, chanté en anglais par René Pape, les Apollo Voices et l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par James Conlon, que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec le chef américain. Réalisation Christine Amado, prise de son Yann Fressy, mixage Romain Lenoir, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute des Grands Entretiens sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.